إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, c'est un plaisir de se retrouver pour une nouvelle assise dans laquelle nous allons nous rappeler, inshallah ta'ala, ce qui nous sera profitable ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé ce bas monde ainsi que la vie et la mort, afin de nous mettre à l'épreuve et de voir qui de nous est le meilleur en œuvre. Ce bas monde, c'est donc un monde éphémère. C'est un lieu de passage et dans lequel tu dois prendre tes provisions pour l'au-delà. Ainsi, celui qui fait prévaloir ce bas monde à l'au-delà, il encourt alors la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que son châtiment. Et il risque de perdre l'au-delà, tout comme il perdra cette dunya. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Quant à celui qui fait prévaloir l'au-delà qui est éternel, sur ce bas monde qui est éphémère, alors c'est lui qui profite réellement de sa vie dans cette dunya. Car il profite de cette vie pour œuvrer afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être du nombre des bienheureux dans l'au-delà par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant doué de raison donc, il considère ce bas monde et ses bienfaits comme des moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, des moyens d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne dois pas te laisser leurrer par des biens éphémères au détriment de ce qui perdure et qui est éternel dans l'au-delà. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ » et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière, c'est-à-dire la demeure de l'au-delà. C'est-à-dire que le musulman, il se sert des biens de ce bas monde pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce par l'accomplissement des œuvres pieuses, en recherchant la récompense de l'au-delà. Tant que le croyant est dans ce bas monde, il traverse alors différentes périodes, et chaque jour que tu vis dans cette dunya est un butin à saisir et une occasion de plus pour faire le bien et prendre tes provisions pour l'au-delà. Et il n'y a pas de doute que la meilleure des provisions est la piété. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Prenez vos provisions, et certes, la meilleure provision est la piété. Et la piété, elle repose sur deux choses essentielles, qui sont la multiplication des œuvres pieuses, ainsi que le délaissement et l'éloignement des mauvaises actions et des péchés. Ainsi, si tu recherches le salut pour ta personne, tu ne dois pas laisser passer une occasion de bien sans la saisir et sans en profiter. Au contraire, tu dois plutôt œuvrer dans le bien, et ce de manière constante, et multiplier les efforts lors des périodes propices aux œuvres pieuses. Car Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa sagesse immense, il a décrété à différents moments de l'année des moments propices à l'adoration, des moments propices à la multiplication des œuvres pieuses. Et ces moments, ils permettent aux désobéissants parmi nous de se remettre en question et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala par le repentir ainsi que l'accomplissement des bonnes actions. Ils permettent aussi à l'insouciant et au distrait de se rappeler à l'ordre afin de ne pas divaguer et de rester sur le droit chemin. Enfin, ces moments, ils permettent aux bienfaisants parmi nous de redoubler d'efforts et ce afin de multiplier le nombre de ses bonnes œuvres dont il trouvera la récompense auprès d'Allah Incha'Allah ta'ala. Il y a tout juste deux mois, nous profitions des 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. Puis le jour de la fête est venu, et combien parmi nous ont persisté sur les œuvres pieuses après celui-ci? Combien de musulmans sont replongés dans les péchés et l'insouciance après le mois de Ramadan, oubliant ainsi la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés? Surtout en cette période estivale, durant laquelle l'homme est pris de paresse au point de négliger ses obligations et de transgresser les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mosquées se sont donc vidées après le mois de Ramadan. Le mushaf a été rangé, le jeûne oublié et la prière de nuit délaissée. Qui parmi nous a terminé la lecture du Coran après le mois de Ramadan? Qui parmi nous a jeûné après le mois de Ramadan? Qui parmi nous s'est levé la nuit pour prier après le mois de Ramadan? Ce sont des questions que chacun d'entre nous doit se poser et chacun connaît les réponses le concernant. Il ne reste plus qu'à se remettre en question et à agir avant qu'il ne soit trop tard. Quoi qu'il en soit, si tu es conscient de tes manquements et de tes faiblesses, alors c'est à bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache que tu as devant toi des jours immenses, des jours méritoires, des jours qui sont les meilleurs jours de l'année. Une occasion immense pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une occasion immense pour te repentir à Allah et revenir à lui par les bonnes actions, et ce afin de combler tes manquements et de te libérer des péchés ainsi que de l'insouciance. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister et nous faciliter tout ce qui mène à son agrément. Ces jours donc, ce sont les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijja, un des 4 mois sacrés de l'année, et c'est le dernier d'après le calendrier égyrien. Ce mois, il est appelé Dhul-Hijja, car c'est durant celui-ci qu'a lieu le Hajj, le pèlerinage de la maison sacrée à la Mecque. Ce mois, c'est donc un mois immense, durant lequel nombre de musulmans accomplissent ce pilier de l'islam, qu'est le pèlerinage, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'en faciliter le déroulement et de préserver les pèlerins musulmans. Et Allah, de par sa sagesse et sa miséricorde, il a fait de la première des 4 de ce mois des jours immenses, des jours durant lesquels les récompenses sont décuplées. Ainsi, celui qui n'accomplit pas le pèlerinage, il peut quand même profiter de cette période dans le bien et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut profiter de cette période pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se peut même que par tes œuvres, tu atteignes un rang plus éminent que le pèlerin en termes de récompense. Et ceci fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit « Celui qui est dans l'incapacité de faire le pèlerinage une année, il peut durant les 10, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul-Hijja, il peut durant les 10 accomplir chez lui une œuvre meilleur que le djihad, qui lui est meilleur que le pèlerinage. » Et on va voir, inshallah, les hadiths à ce sujet. Ces jours donc, ils comportent de nombreux mérites. Et on va ici en citer quelques-uns. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ceci dans son noble livre. Et Allah, comme vous le savez, il ne jure que par ce qui est immense. Et il jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Quant à nous, il ne nous est permis de jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, conformément à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Celui qui jure par autre qu'Allah a certes mécru ou associé. » Et ce hadith est rapporté par l'imam Tirmidhi, rahimahullah, d'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma. Allah subhanahu wa ta'ala, elle a donc dit dans son noble livre « Wal fajr wa layalin ashr » par l'aube et par les 10 nuits. Et quelles sont ces 10 nuits par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a juré dans ce verset? L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit dans le tafsir de ce verset « Ce qui est visé par les 10 nuits, ce sont la première décade de Dhul-Hijja, comme l'ont dit Ibn Abbas, Ibn Zubayr, Mujahid et plus d'un parmi les salafs et ceux venus après eux. » Ceci est donc le premier mérite de ces 10 jours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, ces jours, ce sont les jours fixés, durant lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré de multiplier son évocation. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, et qu'ils évoquent le nom d'Allah en des jours fixés. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhum, a dit, les jours fixés, ce sont les 10 jours de Dhul-Hijja. Il est donc recommandé de multiplier l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala en ces jours. Troisièmement, ces jours, ce sont les meilleurs jours de ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs jours de ce bas monde, ce sont les 10, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Et ce hadith est rapporté par Al-Bazzar, rahimahullahu ta'ala. Et dans une autre version, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de jour meilleur auprès d'Allah que les 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Et ce hadith est rapporté par Ibn Hibban, rahimahullahu ta'ala, dans son sahih, et il a été jugé authentique par l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Quatrièmement, il y a en ces 10 jours le jour de Arafat, qui est le 9e jour, suivi du jour du sacrifice, qui est le 10e, et ces 2 jours, ils comportent de nombreux mérites que l'on va évoquer par la suite, inshallah ta'ala. Vous voyez donc à travers cela l'importance des 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Et la question que l'on pourrait se poser ici, c'est pourquoi ces jours sont-ils les meilleurs de l'année? Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a dit: il apparaît que la cause qui fait que se distinguent les 10 jours de Dhul-Hijjah est que sont réunis en eux les plus importantes adorations, qui sont la prière, le jeûne, l'aumône, ainsi que le pèlerinage, et ceci n'a pas lieu en d'autres jours que ceci. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit: tout ceci prouve que les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah sont meilleurs que tout autre jour, et ce, sans aucune exception. Cinquièmement, on compte aussi parmi les mérites importants de ces jours le fait que les œuvres pieuses accomplies en ces jours sont plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala que celles accomplies en d'autres moments. En effet, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de jour durant lesquels les œuvres pieuses sont plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala que durant ces 10 jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. À l'écoute de cette parole, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils ont dit: ô messager d'Allah, pas même le combat sur le sentier d'Allah, car ils savaient le grand mérite du combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils lui ont donc demandé cela. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: pas même le combat sur le sentier d'Allah, à l'exception d'un homme qui sort avec ses biens et sa personne, puis ne revient avec rien de cela, c'est-à-dire celui qui est mort, obtenant ainsi le rang du martyr. Dans un autre hadith, toujours d'après Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas une œuvre plus pure auprès d'Allah et plus grande en termes de récompense qu'un bien accompli durant les 10 jours du sacrifice, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Et d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith: il n'y a pas de jour durant lesquels les œuvres sont plus méritoires que les 10 jours, c'est-à-dire les 10 jours de Dhul-Hijjah. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Tabarani, rahimahullah, et il a été authentifié par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala. On tire donc de ces hadiths plusieurs bénéfices. Parmi eux, premièrement, l'importance de ces jours et leur valeur immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ce sont les meilleurs jours de l'année de façon absolue. Certains savants ont même stipulé que les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, ils sont meilleurs que les 10 derniers jours du mois de Ramadan, et ce d'après le texte clair du hadith que l'on vient de citer. Et l'avis le plus juste, inshallah, c'est ce qu'a mentionné Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui a dit: les journées de la première décade de Dhul-Hijjah sont meilleures que les journées de la dernière décade de Ramadan, et les nuits de la dernière décade de Ramadan sont meilleures que les nuits de la première décade de Dhul-Hijjah. Ces jours donc, ce sont les meilleurs jours de l'année, et ils sont meilleurs que les 10 derniers jours de Ramadan, et les œuvres pieuses accomplies durant ces jours, elles sont plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que celles accomplies durant les 10 derniers jours de Ramadan. Malgré ces mérites évidents, comme vous venez de l'écouter, on peut constater aujourd'hui que l'on n'observe pas la même ferveur chez les musulmans que durant les 10 derniers jours de Ramadan. Durant le mois de Ramadan, les efforts des musulmans, ils sont apparents. On observe une certaine ferveur générale chez les musulmans. Les mosquées sont plus fréquentées, les gens sont assidus aux prières, ils lisent le Coran, ils multiplient les aumônes et autres parmi les œuvres de bien. Mais durant les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, on ne voit pas le même enthousiasme, pour ne pas dire qu'il est absent chez beaucoup de personnes, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Et la raison principale de cela est l'ignorance à ce sujet. Cheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit: les gens sont négligents quant à cela, car ils ne connaissent pas ce mérite. Beaucoup d'entre eux ignorent cela, et il se peut même que certains étudiants en sciences soient négligents et ne propagent pas ces mérites parmi les gens du commun. Fin de citation de la parole de Cheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Il nous convient donc à tous de faire revivre cela, tout d'abord en mettant en pratique ces hadiths, mais aussi en les propageant autour de nous, et ce en commençant par nos familles, nos proches, ainsi que notre entourage, en propageant des conférences ou des écrits qui exposent les mérites de ces jours ainsi que leur importance. Deuxièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ces hadiths, il y a le fait que les œuvres pieuses accomplies en ces jours, elles sont plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus pures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus grandes en termes de récompense, et plus méritoires que les œuvres accomplies en d'autres jours. Donc toutes les œuvres que tu as accomplies en ces jours, elles sont décuplées, car elles sont plus grandes en termes de récompense. Toutes les bonnes œuvres, sans exception, que ce soit ta prière, ton aumône, ton jeûne, ta lecture du Coran, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le commandement du bien, l'interdiction du mal, ainsi que toutes les œuvres qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit « Ce qui est accompli comme obligation durant les 10 jours de Dhul-Hijjah est plus méritoire que ce qui est accompli en d'autres jours comme obligation. Et ce qui est accompli comme œuvre surérogatoire est plus méritoire que ce qui est accompli en d'autres jours comme œuvre surérogatoire. » On voit donc à travers sa parole que l'ensemble des œuvres pieuses sont plus méritoires en ces jours. Et même le jour du vendredi, il est meilleur que durant le reste de l'année. Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a dit « Et le jour du vendredi, durant les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, est meilleur que le vendredi en d'autres temps, car les deux mérites sont réunis en celui-ci, c'est-à-dire le mérite du vendredi et le mérite des premiers jours de Dhul-Hijjah. » Ainsi, lorsque tu prends connaissance ou que tu te rappelles de ces textes, cela doit te faire quoi? Cela doit te pousser et t'encourager à multiplier les œuvres pieuses durant ces jours et à ne pas les négliger. Dis-toi que ce ne sont que quelques jours, mais ils sont immenses en termes de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas les négliger, mais tu dois faire en sorte d'en profiter et d'en faire profiter ton entourage, en commençant par les gens de ton foyer, et ce en vous entraînant dans le bien et la piété. Car certes, celui qui se prive lui-même des bienfaits de ses jours, il s'est certes privé d'un bien immense, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Si tu médites sur la situation des pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala, alors tu ne peux qu'implorer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il fasse preuve d'indulgence envers nous. En effet, on rapporte de Saïd ibn Jubayr, rahimahullahu ta'ala, que lorsque commençait la première décade de Dhul-Hijjah, il prodiguait de si grands efforts au point qu'il était difficile d'en faire de même. Leurs efforts étaient considérables en ces jours, et ce contrairement à la situation de paresse et la situation d'oisiveté dans laquelle grand nombre d'entre nous sont plongés aujourd'hui, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et de nous faciliter l'accomplissement de tout ce qui mène à son agrément. On a donc vu dans les hadiths la recommandation de multiplier les œuvres pieuses en ces jours. Et avant de mentionner certaines œuvres qui sont légiférées dans ces jours qui arrivent et qui commenceront dans 1 ou 2 jours, inshallah ta'ala, il est tout d'abord indispensable de se rappeler qu'est-ce qu'une œuvre pieuse? Quelles sont les conditions à remplir dans ton œuvre afin que celle-ci soit pieuse? Pour que ton œuvre soit pieuse, elle doit remplir 2 conditions, qui sont la sincérité et la conformité. La sincérité, c'est-à-dire que ton œuvre, elle soit sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle soit vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de tout autre que lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاءَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ » Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah, lui vouer un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. Et dans le hadith al-Qudsi, rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, d'après Abi Hurayra radiallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, selon la traduction des sens rapprochés, « Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe autre que moi, je le délaisse alors lui et son association. » Il est donc obligatoire pour toi que tu t'éloignes de toute forme de shirk en vouant tes œuvres exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce afin que tes œuvres soient pieuses et acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc t'éloigner en priorité de l'association majeure. Car l'association majeure, elle annule l'ensemble de tes œuvres. Peu importe les efforts que tu fais, même si tu pries, jeûnes, donnes l'ensemble de tes biens en aumône, Si tu donnes des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, alors l'ensemble de tes œuvres sont vaines. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Également, tu dois t'éloigner de l'association mineure, celle qui annule l'œuvre dans laquelle elle est commise, à l'exemple de l'ostentation. Ton œuvre, elle doit être vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne dois rien rechercher d'autre derrière celle-ci, ni les compliments des gens, ni leurs éloges, ni rien d'autre que cela. Mais tu recherches exclusivement l'agrément et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne recherches rien d'autre que te rapprocher d'Allah seul, sans aucun associé. Ceci est donc la première condition à remplir pour que ton œuvre soit pieuse, c'est-à-dire que tu l'avoues exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, ceci n'est pas suffisant. Il est indispensable, pour que ton œuvre soit pieuse, de remplir la deuxième condition qui est la conformité. C'est-à-dire que ton œuvre elle soit conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, on trouve dans le hadith, d'après Aïcha radiallahu ta'ala anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque instaure dans notre ordre une chose qui n'en fait pas partie, alors cela sera rejeté. » Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une autre narration, rapportée par Muslim, rahimahullah, il a dit sallallahu alayhi wa sallam « Quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors celle-ci sera rejetée. » Il est donc obligatoire pour toi de veiller à ce que tes œuvres soient conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et tu dois prendre garde et t'éloigner de toute innovation en religion. Et parmi les innovations religieuses qui sont accomplies en ces jours, il y a l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala en commun. C'est-à-dire que les gens font le takbir ou autre dhikr à l'unisson, tous en cœur, en le faisant d'une seule voix. Et ceci fait partie des innovations en religion qui sont rejetées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit « Toute innovation est égarement ». Et il répétait cela dans chacun de ses sermons sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous montre la gravité de l'innovation. Voici donc les deux conditions que tu dois remplir dans tes œuvres. Afin qu'elles soient pieuses, tu dois les accomplir sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est un rappel important. Et on ne le répétera jamais assez. Surtout en ces jours où tu t'apprêtes, incha'Allah ta'ala, à multiplier les œuvres pour te rapprocher d'Allah. Il serait donc dommage, de vrai, pour qu'au final, tes œuvres ne soient que source de fatigue si elles ne sont pas pieuses. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Enfin, parmi les choses importantes à savoir, quelles sont les œuvres à accomplir durant les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Tout d'abord, la première chose à laquelle le musulman doit donner de l'importance, et ce tout au long de l'année, et particulièrement en ces jours, c'est le fait d'être assidu dans l'accomplissement de tes obligations. Ceci doit être ta priorité. Être assidu dans l'accomplissement de tes obligations, à commencer par les 5 prières quotidiennes, mais aussi la bienfaisance envers tes parents, ainsi que toutes les œuvres qui sont obligatoires pour toi. Il y a des gens, ils veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils n'empruntent pas le bon chemin. Ils ne font pas les choses dans l'ordre. Ils veulent faire des bonnes œuvres, mais ils négligent ses obligations. Il ne fait pas la prière, par exemple. Il est comme quelqu'un qui voudrait construire le toit de sa maison alors qu'il n'a pas construit les piliers. Tu dois donc commencer par les bases, commencer par les fondations, c'est-à-dire commencer par tes obligations. D'autant plus que c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus de son serviteur. Comme il est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahmahullah, dans le hadith al-Qudsi, d'après Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, selon la traduction des sens rapprochés, « Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime le plus, si ce n'est ce que je lui ai prescrit, c'est-à-dire ses obligations. » Donc, la première chose sur laquelle tu dois veiller, c'est être assidu dans l'accomplissement de tes obligations, à commencer par tes 5 prières, chacune en leur temps. Puis tu fais suivre cela par des œuvres surérogatoires que tu accomplis afin d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est venu dans la suite du hadith, « Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Et il n'y a pas de doute qu'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala suffit comme récompense et c'est ce à quoi aspire tout croyant véridique. Et les œuvres surérogatoires, elles sont nombreuses. Comme les prières surérogatoires par exemple, les rawatib, la prière de dhuha, la prière de nuit et autres prières surérogatoires. De même, en ce qui concerne l'aumône surérogatoire, le fait de venir en aide
à ceux qui en ont besoin, le jeûne, la lecture du Coran et autres parmi les œuvres, légiférer de façon surérogatoire. Tu dois donc faire des efforts particuliers durant ces jours et ce afin de profiter de leurs mérites. Et en dehors de cela, en dehors de l'assiduité dans l'accomplissement des obligations et de la multiplication des œuvres surérogatoires de manière générale, il y a des œuvres qui sont spécifiquement recommandées durant ces jours, les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Parmi ces œuvres, premièrement, il y a le jeûne. Le jeûne des 9 premiers jours. Les 4 imams, ainsi que d'autres savants, sont d'avis que cela est recommandé, car cela entre dans la généralité des œuvres pieuses recommandées durant ces jours. Donc si tu as les capacités de jeûner, jeûne autant que tu peux durant ces jours. Deuxièmement, parmi les choses spécifiquement recommandées durant ces jours, il y a le jeûne du jour de Arafat, qui est le 9e jour, sauf pour le pèlerin. Le pèlerin, lui, ne jeûne pas, car il est en train d'accomplir les rites du pèlerinage. D'après Abu Qatada, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été interrogé au sujet du jeûne du jour de Arafat. Il a alors répondu, « Il expie les péchés de l'année passée et de l'année suivante. » Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullahu ta'ala. Il est donc fortement recommandé de jeûner au moins ce jour afin de profiter de cette récompense immense mentionnée dans ce hadith comme vous venez de l'écouter. Troisièmement, parmi les choses recommandées durant ces jours, il y a l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière générale, le dhikr, comme on a vu dans le verset, et plus particulièrement le takbir, le fait de dire Allahu Akbar. L'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala a rapporté que Ibn Umar et Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhum, ils sortaient au marché durant les 10 jours, c'est-à-dire les 10 jours de Dhul-Hijjah, et ils faisaient le takbir à haute voix, puis les gens le faisaient à leur écoute. Lorsque les gens les écoutaient faire le takbir, à leur tour, ils faisaient le takbir de leur côté. Et dans une autre version, il a été ajouté, ils ne sortaient que pour cela. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucun besoin de se rendre au marché. Mais ils ne sortaient que pour cela, afin d'enseigner le bien, afin que les gens les prennent pour modèle dans cette bonne œuvre, et ce afin d'accroître leur récompense et que le bien se propage parmi les musulmans. Il est donc recommandé en ces jours de multiplier le takbir, de proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est légiféré pour tous, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, ainsi que pour les adultes et les enfants. Personne ne doit se priver du bien de cette adoration qui est très simple à accomplir pour le croyant. Tu peux le faire à tout moment, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Que tu sois chez toi ou à la mosquée, au travail ou autre, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala est une adoration qui est très simple à accomplir par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est important de souligner que le takbir, il est de deux sortes. Il y a le takbir al-mutlaq et le takbir al-muqayyad. Cheikh al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, a été interrogé au sujet de la description de ces deux formes de takbir. Il a entre autres répondu, rahimahullah, la formule du takbir est la suivante. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ou alors, tu répètes le takbir 3 fois au début, en disant « Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. » Et le takbir, donc, comme on a dit, il est de deux sortes. Le takbir al-mutlaq, c'est celui qui est recommandé à tout moment, c'est-à-dire qu'il n'est pas restreint à un temps particulier. Tu le fais à tout moment. Et le takbir al-muqayyad, il est celui qui est recommandé après les prières obligatoires. Le takbir al-mutlaq, il commence dès l'entrée du mois de Dhul-Hijjah, dès que l'entrée du mois est annoncée. C'est-à-dire que demain, si c'est le dernier jour du mois de Dhul-Qi'da, et que le mois de Dhul-Hijjah est annoncé qu'il commence dimanche, à partir de la prière du Maghreb, de demain soir, le takbir al-mutlaq, il devient légiféré à tout moment, sauf après les prières. Et ce takbir, il reste légiféré jusqu'au dernier jour de Tashriq, c'est-à-dire le 13e jour de Dhul-Hijjah, juste avant le Maghreb. Il est donc légiféré durant 13 jours au total. Et le takbir al-muqayyad, celui qui a lieu après les prières obligatoires, après le salut, il commence à partir de la prière du Fajr du jour de Arafat. Et ce, jusqu'à la prière d'Al-Asr du dernier jour de Tashriq, c'est-à-dire le 13e jour. Donc tu l'accomplis durant 5 jours. À partir du jour de Arafat, après la prière du Fajr, jusqu'à la prière d'Al-Asr, le 13e jour de Dhul-Hijjah, le 3e jour après l'Aïd. Et la sunna pour ce takbir est de le faire à voix haute, sauf pour les femmes bien sûr, qui elles ne doivent pas élever la voix. Voici donc les principales œuvres légiférées durant la première décade du mois de Dhul-Hijjah. Arrive ensuite le dixième jour, qui est le plus important et le plus immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le meilleur jour de l'année, et ce de façon absolue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Le plus immense des jours auprès d'Allah est le jour du sacrifice. » Et ce hadith a été authentifié par les imams Al-Albani et Al-Wadi'i rahimahum Allah ta'ala. Et de nombreuses adorations sont légiférées durant ce jour, durant le jour de l'Aïd, à commencer par la prière, puis ensuite le sacrifice qui fait partie des plus grandes adorations accomplies en ce jour. D'après Al-Bara ibn Azib, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « En ce jour, la première chose par laquelle nous commençons est de prier, puis nous revenons et sacrifions. Quiconque fait cela aura alors atteint notre sunnah, et quiconque sacrifie avant cela, ce sera alors uniquement de la viande qu'il présente à sa famille, mais qui ne fait en rien partie des rites. » Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala. Donc il faut faire très attention pour ceux qui délèguent la tâche du sacrifice ou ceux qui se rendent dans différentes boucheries ou autres pour commander leur bête du Eid. Il faut faire très attention à ce que cette bête, elle soit bien sacrifiée après la prière du Eid. Sinon, cela n'est pas valide, mais c'est juste de la viande qu'il présente à sa famille, comme vous l'avez écouté dans le hadith. À noter que celui qui va faire le sacrifice, même s'il ne le fait pas de sa main et qu'il a délégué la tâche à quelqu'un, alors une fois que le mois de Dhul-Hijjah est entré, il ne doit rien retirer de son corps, et ce jusqu'à ce que sa bête soit sacrifiée. D'après Salama, radiyallahu ta'ala anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah entrent et que la personne possède une bête qu'il veut sacrifier, alors qu'il ne se coupe ni cheveux ni ongles. Et dans une autre version, qu'il ne touche rien de ses cheveux ni de sa peau. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Donc si tu vas accomplir le sacrifice pour le Eid, même si tu as délégué la tâche à quelqu'un, alors dès demain ou après-demain, une fois que le mois de Dhul-Hijjah rentre, tu n'as plus le droit ni de te couper les cheveux, ni de te couper les ongles, et ne rien retirer de ta peau. Ceci est donc un résumé des principales œuvres légiférées en ces jours. Et je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous la multiplication des bonnes œuvres durant ces jours. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que nos œuvres lui soient exclusivement vouées et qu'elles soient conformes à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Préparons-nous donc à faire des efforts durant ces jours et à ne négliger aucune œuvre de bien, pas même une bonne parole, pas même un sourire que tu fais à ton frère, car certes celui qui fait le bien, aussi moindre soit-il, il le trouvera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Protégez-vous du feu, ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date, et si vous ne trouvez rien à donner, alors par une bonne parole. » Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.